votre émission Partage littéraire avec Gwendoline sur Radio Pont.
Bonjour à tous sur Radio Pont. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver dans nos locaux Judith Trappet, auteure charentaise, que nous avions rencontrée durant les salons des auteurs de Pont et au Festival des Ténacs. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors, ça fait une dizaine d'années maintenant que vous écrivez des romans fondés sur des faits réels. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre dernier roman qui s'appelle L'Éther de Gabriel et qui a été publié en avril 2018.
En avril de cette année, c'est ça. C'est mon 8e roman.
Comme c'est un livre basé sur des faits réels, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Gabriel ?
Qui est Gabriel, voilà. Bon, alors d'abord, je peux peut-être rappeler, donc c'est mon 8e roman, donc les 5 premiers étaient basés sur des faits réels toujours, mais plus autour de la condition féminine au 18e siècle.
D'accord.
Là, c'est donc le 3e aux éditions de Boré, et le 3e qui se passe durant la première moitié, ou du moins le début du 20e siècle. Voilà, donc j'ai fait un petit saut dans le temps. J'ai fait un peu abstraction du 19e siècle, mais bon, je pourrais y revenir plus tard. Donc, c'est toujours des romans, oui, qui sont basés sur des faits réels, c'est-à-dire soit d'après des documents d'archives, soit d'après des témoignages, des correspondances, ou bien des faits qu'on m'a racontés. Et là, c'est le cas pour Gabriel. Donc, qui est Gabriel ? C'est une jeune fille qui habitait la région de Pont. Donc, elle est née à Avy, mais elle a ensuite habité Fléac-sur-Seugne. C'était une petite fille très pauvre d'une famille donc de gens qui allaient louer leurs bras, qui n'avaient rien à eux, pas de terre. Son père était carrier, donc il travaillait dans les carrières dans la région d'Avy. Et quand les carrières ont fermé, eh bien, il a décidé de se louer en tant que métayer dans une propriété à Fléac-sur-Seugne. Voilà. Et cette jeune Gabrielle, quand elle est arrivée dans cette propriété, que j'ai appelée la Guérinière, mais qui en réalité ne s'appelle pas la Guérinière.
Ah.
Non, elle ne s'appelait pas Gabrielle non plus. Ça, c'est... Comme ce sont des faits réels et des personnages qui ont existé, on m'a demandé... Donc, de modifier un petit peu les noms des lieux. Mais ça se passe quand même à Fléac, parce que ça, je ne pouvais pas faire abstraction du lieu, puisque bon, c'est quand même bien ancré dans le terroir, et là, je ne pouvais pas le situer ailleurs. Donc, cette petite fille, quand elle arrive dans cette belle propriété, elle est fascinée par cette belle maison. Mais malheureusement, ce n'est pas là qu'elle va habiter, puisque elle va habiter dans une toute petite maison à côté qui est réservée aux domestiques. Voilà. Et elle va rêver d'habiter une belle maison et elle va se dire que il faut absolument qu'elle arrive à faire quelque chose de sa vie et à avancer, à devenir quelqu'un dans la société. Alors donc, c'est ce qu'elle va s'employer à faire. Mais en attendant, il va bien falloir qu'elle fasse... Son travail de domestique, de servante, est au service des maîtres qui viennent régulièrement chercher, évidemment, faire les comptes, chercher l'argent. Et elle va se rendre compte que, justement, elle est pire qu'une esclave. Et elle refuse cet état de servilité. Et plus elle avance et plus elle se dit « Non, je veux faire autre chose de ma vie ». Et elle va y arriver grâce à Julia, qui est une institutrice et qui va devenir son amie et qui va lui enseigner tout ce qu'elle sait. Alors, Julia est un personnage fictif. Je ne sais pas si elle a connu de personne pour l'aider, en tout cas, dans cette voie. Mais de temps en temps, c'est vrai que même si l'histoire est vraie, même si les personnages sont réels, c'est quand même un roman, donc ça n'empêche pas d'y intégrer quelques personnages fictifs.
D'accord. Donc, on voit au début et à la fin, il y a un petit épilogue, un prologue
voilà.
Sur la petite fille de Julia.
Oui,
donc,
c'est ça.
Comme Julia n'existe pas, évidemment.
Ça, c'est un petit clin d'œil. Bon,
d'accord.
C'est moi, je sais pourquoi j'ai fait ça. Bon, c'est par rapport au propriétaire actuel des lieux, bon, qui est revenu lui aussi après avoir fait autre chose. Voilà, c'était pour faire un petit peu une dynamique aussi dans le roman, écrire ce petit prologue. Cette jeune fille, donc, on est dans les années 70, qui arrive à Pont, à la gare de Pont, et puis qui découvre la région avec dans sa poche le petit journal de sa grand-mère qu'elle avait écrit quand elle était donc. Institutrice à Fléac.
D'accord.
Et voilà. Et alors, sa petite fille qui a découvert ce carnet va revenir sur les lieux où a vécu sa grand-mère et elle va vouloir découvrir ces lieux. Elle va vouloir peut-être retrouver qui était cette fameuse Gabrielle, qui était l'amie de sa grand-mère. Et si elle est encore vivante, eh bien, elle va chercher savoir, en savoir plus sur sa grand-mère, qu'elle a très peu connue.
D'accord. Et donc, vous, c'est qui vous a raconté l'histoire ?
Alors, je ne peux pas le dire, parce que c'est top secret. Ah. Bon, c'est quelqu'un de la région que j'avais rencontré au Salon de Pont, qui m'avait lu, qui avait aimé mon style et qui m'a dit, ah, moi, dans ma famille, il s'en est passé aussi des histoires, et notamment une femme qui a marqué l'histoire de sa famille. Et il m'avait proposé un jour de me raconter en détail cette histoire. Et puis, bon, on s'était revus après, et puis là, on a pris rendez-vous. Je suis allée donc dans cette belle propriété. Il m'a montré un petit peu tout ça. Et puis, c'est vrai que je me suis sentie tout de suite en lien avec ce personnage dont il m'a montré la photo. Il y a des maisons comme ça qui n'ont pas bougé depuis des siècles. Et puis, puis moi, je ressens facilement les atmosphères dans ces maisons. Je capte peut-être l'esprit ou l'âme des anciens propriétaires. En tout cas, moi, je suis comme ça. Et il me faut ça pour pouvoir, après, que ça déclenche l'envie d'écrire et l'envie de se plonger dans l'histoire et d'en savoir un peu plus et de faire beaucoup de recherches. Parce que, bon, il y a ce qu'on nous raconte, mais après, il y a tout le contexte. Et notamment celui de la Deuxième Guerre mondiale, qui, pour moi, était quand même assez nouveau. J'ai dû beaucoup travailler pour pouvoir situer cette époque dans mon roman.
Puis on voit aussi que vous avez dû avoir beaucoup de travail dans les deux, tout le livre.
Il y a énormément de recherches. D'ailleurs, ça, c'est ce que beaucoup de gens me disent. Il y a des références, c'est-à-dire que voilà, tout ce que je dis, on peut le prouver, c'est pas inventé. Même s'il y a des petits passages de fiction, ça, on peut pas empêcher, sinon ça serait pas un roman. Il faut qu'il y ait quand même une intrigue, il faut maintenir le lecteur en haleine, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui suscite l'intérêt et l'envie de tourner la page. Mais quand même, il faut rester crédible, et il faut toujours avoir des références dans ce qu'on avance.
Et justement, comme vous dites, maintenir le lecteur en haleine, on voit dès le début qu'après, Gabrielle tombe amoureuse d'un homme que ses parents n'ont pas forcément prévu pour elle.
Voilà,
après,
donc ça, c'est un petit peu fictif. Alors, je sais que dans la vraie histoire, donc cette jeune fille est tombée amoureuse d'un homme qui était plus aisé, enfin, qui était d'une condition sociale beaucoup plus élevée que la sienne. Et c'est ce qu'elle avait aussi l'intention de faire. Elle voulait sortir de sa condition. Donc, le hasard a fait qu'elle a rencontré cet homme-là. Elle était très belle, Gabrielle. Moi, j'ai vu sa photo et c'est vrai que c'était une très, très belle fille. Et donc, ce jeune homme, malheureusement, va disparaître pendant la Première Guerre. Alors, lui, je ne sais pas qui c'est. Je l'ai façonné. On n'est pas loin de Saintes. Je l'ai intégré au 6e régiment de Saintes, c'est ce qui est plausible. Voilà. Mais bon, lui, on n'a pas pu savoir qui il était réellement. Voilà.
Alors, c'était un mélange fiction.
Oui, voilà. Mais j'ai quand même suivi le parcours d'un poilu officier du 6e régiment. Je n'ai pas inventé son parcours. Parce que là aussi, si on situe un soldat dans un régiment, on ne peut pas le faire aller à un endroit où, si le régiment était ailleurs. Donc, il faut quand même rester là aussi d'un point de vue historique très rigoureux. Par contre, le parcours de l'autre homme donc, qui va entrer dans sa vie, qui est donc le fils du maître, le nouveau propriétaire de la guérinière, lui, j'ai vraiment suivi son parcours d'après la fiche matricule. On peut arriver à retrouver dans les archives partout où il est passé. Donc, quand je parle de l'hôpital Le Grand Palais, où il est allé donc se faire soigner après sa blessure, ça, c'est authentique. C'est des recherches que j'ai faites après moi. Mais il est passé par là. Il est réellement allé là, se faire soigner.
D'accord.
Donc on apprend plein de choses. C'est aussi le but d'un roman. C'est pas seulement de divertir le lecteur, mais c'est aussi de lui laisser quand même des informations qui peuvent lui être utiles et pour sa propre... Voilà. Donc c'est mon but, en tout cas. Et puis toujours de faire ressortir aussi la région et de parler de mon territoire, de ma Saintonge.
On voit aussi, après, entre les deux guerres, là, on voit aussi l'évolution.
Et on voit aussi, l'entre-deux-guerres, comment les choses ont pu se passer pour Gabrielle, qui devient donc quelqu'un, qui devient la maîtresse de ce domaine, et qui va être quelqu'un d'un petit peu en avance par rapport à la mécanisation agricole. C'est-à-dire qu'elle va s'intéresser à tout l'outillage, et pour une femme, c'est quand même assez...
C'est étonnant.
Et puis, bon, elle était visionnaire quelque part, puisqu'elle a cherché à agrandir son domaine et à le mécaniser au maximum pour pouvoir économiser de la main-d'œuvre. Et elle a su investir de façon pertinente pour pouvoir toujours maintenir ses affaires et les faire prospérer.
Après, on voit aussi pendant la Seconde Guerre mondiale où
voilà.
Après faire sacrifier, on va dire, le cognac qui vaut l'argent. Que sacrifier tous les gens qu'il y a chez elle, on va dire.
Alors, il y a ça aussi. Et puis, bon, elle est très...
Je sais pas si ça s'est vraiment passé, ça.
Ah oui, alors, cette histoire de cognac, quand les Allemands sont partis et qu'ils sont venus vider son chai, ça, c'est vrai.
Ah, oui,
oui, oui, oui. Dans tous les épisodes de la Seconde Guerre, là, c'est des anecdotes, donc, qui m'ont été racontées.
Ah, oui,
alors,
oui.
Après, bon, elles m'ont été racontées parce qu'elles ont été relatées dans la famille. Donc, son neveu qui refuse d'aller travailler en Allemagne... en 1943 avec le STO, donc là c'est vrai, donc il s'est caché pour échapper donc à ce départ en Allemagne. Voilà, donc après tout ça, ça fait partie des petites histoires, toutes ces femmes de l'ombre finalement qui ont œuvré pour faire en sorte que le pays reste français, bon ben dont on parle pas, et puis sauf dans les familles où on sait que voilà. Bon, ben là, c'était l'occasion de raconter ce que certaines ont fait dans la région de Pont. Et voilà.
Parce que, oui, ils prennent tous les hommes pour aller à la guerre, mais il faut bien
Mais les femmes ont dû quand même...
Il faut bien que les femmes...
Voilà, c'est ça. On le voit bien, d'ailleurs, hein, que ce soit pendant la Première Guerre ou la Seconde Guerre, on voit bien qu'en l'absence des hommes, les femmes ont dû travailler doublement pour pouvoir maintenir... Là, c'est plus le travail de la ferme, de la terre, donc, qui est décrit dans ce livre... Mais bon, c'était quand même quelque chose à l'époque. Et heureusement quand même que Gabrielle avait prévu d'acheter un tracteur, hein, ce qui était quand même assez rare à l'époque, mais ça c'est authentique. Et puis d'acheter pas mal de la batteuse et tout ce,
Et puis,
ce matériel.
Et on voit, enfin, moi ça me donne cette impression-là, que Gabrielle n'oublie pas non plus d'où elle vient. Quoi. Elle est devenue maîtresse de,
c'est ça.
De la maison.
Oui.
Mais elle n'est pas là à donner des ordres.
Non.
Je fais rien, quoi.
Alors, elle a quand même. L'un de ses frères est parti parce qu'il refusait justement de voir sa sœur patronne de la ferme et lui donner des ordres. Donc, lui, il a préféré partir. Mais elle a toujours été finalement. Oui, c'est elle qui employait ses parents et puis son autre frère et sa belle-sœur. Ah. Mais elle mettait la main à la pâte, c'est-à-dire qu'elle n'hésitait pas à prendre la fourche, la faux, et puis elle était à leur côté pour pouvoir aider quand il fallait. Ce qui ne l'empêchait pas aussi d'avoir une voiture, de partir à Bordeaux, d'aller faire les boutiques de la rue Sainte-Catherine. Voilà, elle faisait ça aussi.
Moi, au niveau de la voiture, il y avait une anecdote qui m'a fait sourire un petit peu, c'est qu'elle dit, pour eux, la voiture, elle roule super vite, parce qu'elle va rouler à 70 km/h.
Ah oui, oui, oui.
Aujourd'hui, on se dit, les voitures, 70 km/h, bon...
Ouais,
c'est pas... Et à cette époque-là, c'était déjà...
C'était énorme, oui, oui.
Alors, c'est assez drôle, je dirais, le truc.
Oui, mais on voit, en fait, l'évolution pendant toute cette partie du XXe siècle, hein, au travers, justement, de la vie de Gabrielle, quoi, les premières voitures. Enfin, c'était pas les premières, hein, parce qu'il y en avait bien avant. Mais... Quand même, tout le monde n'en avait pas. Ça restait, ça restait quand même un luxe d'avoir une voiture, une automobile à cette époque-là.
Oui, mais on voit quand même que là, il fait 300 pages à peu près.
Oui, dans
ce genre-là.
Oui, un peu plus de 300 pages.
Et on voit quand même que Gabrielle a eu une vie bien mouvementée, comme vous dites. Elle n'a pas été épargnée par la vie. Quoi.
Non, elle n'a pas été épargnée par la vie. Et ça, c'était le lot de toutes les femmes nées à la fin du 19e siècle. Parce que bon, elles arrivent en 1914, elles ont 18, 20 ans, 25 ans. Bon, l'époque où elles pensent plutôt à chercher un mari, bah, elles les voient partir, les hommes. Leurs frères, leurs maris, leurs fiancés, ils partent. Donc elles vont subir quand même cette angoisse de savoir ce qui va leur arriver. Et puis, tout en devant travailler dur.
À un moment, c'est ce qu'a dit. Bon, après, Julia, le personnage n'existe pas, mais c'est ce qu'a dit à un moment. Elle dit, au moment où je voulais commencer à me dire, bon, il faudrait que je trouve un mari, il y a la guerre.
Voilà, c'est ça. Alors, il y a le personnage de Julia, oui, j'ai fait dans le livre, au niveau de l'écriture, ce qu'on appelle un chapeau en littérature, c'est-à-dire un petit début de chapitre, voilà, qui est écrit à la première personne et qui est écrit en italique pour bien montrer que c'est un personnage à part qui parle. C'est son journal, en fait. Donc, une page de son journal en tête de chapitre pour donner un petit peu, elle, son point de vue, son impression sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle ressent, sur ce qui se passe. Voilà, tous les morts de la Grande Guerre à Fléac, donc il y en a eu un certain nombre. Elle déplore tout ça et... Voilà, et donc pour en revenir à Gabrielle, effectivement, pendant la Deuxième Guerre, elle n'est pas épargnée non plus, puisque bon, la Première Guerre va marquer sa vie donc, de jeune femme, et puis elle est encore, bon, à 45 ans, elle est encore une femme, et elle va subir la Deuxième Guerre et devoir assumer encore une fois le départ des hommes, et puis voilà, tout ce qui va se passer, qu'elle ne sait pas à l'avance, mais elle sait déjà, elle se prépare à subir le pire. Et ça va être très différent de la première, mais bon, elle va être confrontée à peu près tous les cas de figure. C'est-à-dire que Julia va revenir, puisque bon, elles vont se séparer, elle va partir à Paris, elle revient pour se cacher parce qu'en fait, elle a épousé un juif. Et oui, et sa fille va donc avoir du sang juif. Et donc, elles vont se cacher, puisqu'il y a toutes les lois sur les juifs là, qui vont donc... avoir cours, et donc Gabrielle va aussi risquer sa vie pour les cacher et les faire partir, quoi. Se mettre en lien avec un réseau, et à partir de là, ben, voilà, elle va entrer dans la résistance, protéger son neveu donc en le cachant du STO, et puis il y aura des parachutages d'armes aussi qui vont avoir lieu sur leur propriété. Ils vont cacher des armes. Et il y en a un certain nombre de ces armes qui sont toujours cachées parce qu'ils n'ont jamais réussi à retrouver exactement où elles ont été cachées.
Ça veut peut-être dire qu'elles ont été très bien cachées. Alors.
Elles ont été très bien cachées, oui. Mais les Allemands, sont, en repartant, donc en juin 1944, sont passés par là et donc lui ont raflé tout son cognac. Voilà, qui était son or, quoi, puisque bon, le cognac, c'était...
C'est ça, bien à un moment, c'est l'essentiel de sa fortune.
Voilà, sa fortune était là, oui.
D'un autre côté, on comprend le dilemme qu'elle a eu à affronter. C'était ça ou leur vie, alors bon.
Voilà, donc déjà, ils s'en sont bien tirés, puisqu'ils ont eu la vie sauve, ils auraient très bien pu. Alors, si l'un d'eux avait essayé de se mettre en travers... Bon, bah, je pense que ça serait très mal terminé. Oui, donc, il valait mieux obéir. Et puis, voilà, hein, quitte à laisser partir une partie de son patrimoine. Et alors, oui, dans ce livre aussi, moi, j'ai voulu aussi parler de l'épisode quand même très héroïque des carrières d'Heurtebise. Puisque, évidemment, Ruy Bégatineau, c'était à la même période. Donc, je ne pouvais pas passer sous silence ce qui a été l'un des plus hauts faits de résistance quand même pendant cette période-là. On n'en parle pas énormément, à part évidemment les gens de la région et de Jonzac en particulier. Quand on sort un petit peu de ce territoire, on se rend compte que c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et moi, j'avais envie d'en parler et de raconter. Voilà. Et c'est pour ça que là, j'ai manœuvré de façon à ce que Gabrielle et sa fille, Léandra, donc, puissent connaître... les protagonistes de cette histoire-là, des carrières, et voilà, qui se connaissent, et pouvoir raconter cette histoire-là, il me semblait que ça faisait partie de l'histoire tellement évidente de la région qu'il fallait en parler.
Une histoire avec un petit H qui rencontre l'histoire avec
voilà, c'est tout à fait ça. Voilà, avec les emprisonnements au Fort du Ha. Mathilde Robert a été emprisonnée au Fort du Ha. Et alors après, ben, ça c'est de la fiction, la fille de Gabrielle qui va être dénoncée, ça c'est pas de la fiction, parce que moi j'ai un propre grand-père qui a été dénoncé et qui aurait pu se retrouver au Fort du Ha si la lettre n'avait pas été interceptée à la poste de Jonzac par quelqu'un de la résistance. Ah oui, oui. Donc je me suis un petit peu inspirée aussi de d'autres petites histoires pour voilà, mettre en lien tout ça. Et...
Parce que Mathilde Robert, elle a vraiment...
Alors Mathilde Robert, qui était la fille de la gardienne de la justice de paix là, du tribunal de Jonzac, où était logé Pierre Ruibé. Donc elle a été réellement emprisonnée parce qu'elle avait servi de... Enfin, elle avait envoyé des télégrammes au groupe Alerte qui était à Bordeaux pour qu'ils envoient des détonateurs pour pouvoir amorcer donc le système et faire sauter les carrières. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été arrêtée.
Après, elle a eu de la chance, on va dire.
Alors, elle a eu de la chance. Alors ça, on ne va pas dire pourquoi, parce que c'est quand même la fin du livre. Ah, c'est, oui. C'est un peu le... Voilà.
Mais c'est
quand même une belle fin. Elles ont eu énormément de chance.
Ah oui.
Alors, Mathilde, Ça, c'est la vraie histoire. Et puis Léandra.
Ça, oui. Voilà. Mais... En fait, ce livre-là, c'est un livre qu'on ferme. On soupire, mais pas parce que c'était pas bien, mais parce que... Quand on a retenu notre souffle en tout le livre, quand il est fermé, on dit...
Oui, on souffle. On se dit ouf. Oui, c'est, non, c'est vrai quand même que c'était des vies... Pour les femmes de cette époque-là, nous, on se rend pas compte. Enfin, moi, je me rends compte parce que justement, à force d'étudier tous ces personnages-là, oui, finalement, on a un peu de chance quand même aujourd'hui, parce qu'on n'a pas connu, pour l'instant. Bon, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais en tout cas, on n'a pas eu cette jeunesse de vivre dans l'angoisse du retour des hommes. Enfin, on ne peut pas imaginer quand les cloches ont sonné ce 1er août 14 que tous les hommes de 20 ans à 48 ans qui ont tout laissé. Ils étaient en train, à ce moment-là, de faire les moissons, mais ils ont tout laissé pour partir aussitôt. Ils ont quitté leurs femmes, ils ont quitté leurs enfants, ils ont quitté leur maison, leurs amis, leur métier. Et ils sont partis, sans savoir s'ils allaient revenir. Ceux qui ont eu la chance de revenir, ils ont dû attendre un an avant d'avoir une permission de 8 jours. C'est un petit peu le cas de tous ceux qui sont partis. Un an sans revenir. Alors, il y avait le courrier, bien sûr. Enfin, quand même. Et tous les morts qui arrivaient, alors là...
Après, un an de guerre, je pense que ça doit vachement les changer au niveau...
Ah ben alors après, oui, bien sûr. Et... Ben, on le voit bien là, ce que la guerre a fait du personnage de Rodolphe, donc qui est le mari de Gabriel. Quelqu'un de diminué physiquement, le mental forcément,
le mental, c'est sûr,
pas
c'est...
mal affecté aussi, puisque bon, c'est des hommes diminués, des hommes... qui ont tellement souffert et qui peuvent même pas dire ce qu'ils ont souffert parce que c'est tellement horrible que personne les croirait ou puis eux ne veulent pas.
Mais il y en a un en même temps, Auguste, je crois.
Alors Auguste, oui, qui est un des métayers puisqu'ils étaient deux couples de métayers à cette ferme, qui lui va partir aussi et son parcours, il est véridique. Enfin, il a été fait prisonnier, il me semble que c'est en 1916 et il est parti en Allemagne et là j'ai retrouvé le camp et j'ai retrouvé des éléments qui m'ont permis de vraiment raconter ce qu'a été son parcours.
Quand il revient, il parle pas presque.
Voilà, c'est ça. C'est des hommes qui sont traumatisés. Je raconte quand la Deuxième Guerre se déclare et qu'il va voir partir son fils qui se suicide. Alors ça, c'est pas vrai. Mais par contre, ça s'est passé dans une famille que je connais où le père qui a vécu la guerre de 14 s'est suicidé en voyant partir son fils en 39 parce que c'était tellement horrible ce qu'il avait vécu qu'il ne pouvait pas...
Quand on voit notre enfant, je pense, partir vers quelque chose qu'on a vécu et qu'on sait que c'est pas bien.
Et qu'on sait que c'est l'enfer, il n'a pas supporté. Quoi.
Ouais, c'est sûr.
Voilà, ça s'est passé dans une famille que je connais. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a parfois des petites choses que j'ai grattées ailleurs. Mais voilà, c'est quand même de l'histoire vécue. Oui.
En tout cas, c'est un très bon livre.
Merci. J'espère que tout le monde l'appréciera.
Donc, on rappelle, c'est Les Terres de Gabriel par Judith Rappé aux éditions de Boré.
C'est ça.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
J'espère que je saurai émouvoir mon public. Et puis, j'espère que les gens du pont et de la région seront contents de retrouver un petit peu les lieux qu'ils connaissent et puis ce qui a pu se passer tout près de chez eux. C'est un petit peu le but. Moi, mon but, c'est quand même aussi de mettre la région en valeur et puis de la faire connaître par ses petites histoires et par tous les gens qui l'ont peuplée au cours des siècles.
Moi, c'était un plaisir de vous retrouver.
Eh bien, merci.
Et à bientôt pour le prochain livre.
Ben, d'accord. Il est écrit.
Ah. Au revoir.
Au revoir.